Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute!
Il a créé l'archétype du super-détective. Ici André Martineau à Aujourd'hui l'Histoire, l'Écossais Arthur Conan Doyle et le personnage mythique de Sherlock Holmes.
Detective always seemed to get at his results either by some sort of lucky chance or a fluke, or else it was quite unexplained how he got there. I began to think of turning scientific methods, as it were, onto the work of detection.
Un bref extrait d'un film de Fox Movietone de 1928, la voix d'Arthur Conan Doyle. Dans le fond, il vient de nous dire que les détectives avant lui, les détectives de fiction, trouvaient toujours leurs coupables par des moyens inexpliqués. Il s'est dit qu'il serait intéressant d'avoir un enquêteur qui sache utiliser la science à son avantage. C'était là la genèse de Sherlock Holmes, célèbre personnage dont les incarnations sont innombrables depuis sa création en 1886. Un héros brillant, astucieux, en phase avec les découvertes de son époque et qui, pourtant, sera mal aimé de Conan Doyle, son créateur, un homme excentrique, avide de spiritisme.
Vous avez au laboratoire de police de Lyon que vous avez créé, dont vous êtes actuellement le directeur honoraire, la visite de Conan Doyle. C'était
oui,
de quelle année?
C'est exact. C'était ça. Mais d'autre part, pendant de nombreuses années, j'ai été en relation épistolaire avec lui et je viens d'entendre dire au micro que Sherlock Holmes n'avait rien inventé. C'est tout à fait inexact. Il y a un certain nombre de choses que j'ai empruntées à Sherlock Holmes et par exemple l'analyse des cendres de cigares et de cigarettes et surtout l'analyse des poussières sur les chaussures.
Eh bien, professeur Lockhart, je tiens à vous dire que quelqu'un de Scotland Yard, très haut placé à Scotland Yard, m'a dit que cette méthode, justement, de détection grâce aux poussières prélevées sur les vêtements, est aussi vieille que l'Ancien Testament.
Oui, oui, c'est entendu. Je n'ai pas dit sur les vêtements, j'ai dit sur les chaussures. Et l'examen des poussières des chaussures, ça, c'est une chose qui se trouve dans plusieurs des nouvelles de Conan Doyle et qui n'avaient guère été pratiquées avant. Je n'aime pas bien que les policiers réels, fussent ceux de Scotland Yard, qui sont les premiers du monde, nous le savons, essayent de diminuer la gloire de ce romancier qui a été un très grand inventeur.
Élémentaire, mon cher Watson, la voix d'Edmond Lockhart, fondateur du laboratoire de police scientifique de la ville de Lyon en France, qui a connu Arthur Conan Doyle et qui témoignait ici dans une archive de la RTF de 1959 du caractère innovant de l'auteur dans ses aventures de Sherlock Holmes. Pour nous parler d'Arthur Conan Doyle et de son célèbre détective privé, j'accueille Catherine Tourangeau, historienne et chargée de cours au Collège Hunsick. Catherine Tourangeau, bonjour.
Bonjour.
Alors, avant de parler de ce personnage mythique, on peut d'abord s'attaquer à son auteur. Qu'est-ce qu'on sait des origines d'Arthur Conan Doyle?
Conan Doyle va naître à Édimbourg, en Écosse, en mai 1859. Lui, il est issu d'une famille d'origine irlandaise, catholique, mm-hmm. avec des origines assez mythiques là, dans le Moyen Âge. Ça peut expliquer son nom Arthur, peut-être oui. un petit clin d'œil au roi Arthur d'ailleurs. Donc, une famille très respectable, mais qui peine à maintenir son train de vie. Donc, très jeune, lui, va étudier chez les Jésuites, va en tirer des souvenirs, disons, mitigés, donc pas une super belle expérience, puis va se diriger vers la médecine à l'Université d'Édimbourg, qui a à l'époque une des meilleures écoles de médecine en Europe.
Mais pourquoi la médecine? Est-ce que c'était une question de retrouver un prestige familial ou c'était pour assouvir une curiosité?
C'était en fait un choix très pratique. Donc, c'était pas une grande passion pour la médecine nécessairement, mais c'est une des professions qui permettait d'obtenir un statut social assez élevé, de faire quand même de l'argent. Et c'était une façon aussi pour Conan Doyle, qui a toujours été très, très curieux, d'assouvir cette curiosité, aussi cet intérêt pour la science, pour savoir comment les choses fonctionnent.
Il y a un personnage qui était assez important là où il étudiait, c'est le docteur Bell. En quoi c'est une rencontre marquante pour lui?
C'est un prof de chirurgie. Et il fait quelque chose qui est très particulier à l'époque. Il a un bon sens du spectacle. Il va faire des séances, dans le fond, de diagnostic public. Donc, devant public, il va recevoir des nouveaux patients. Et sur la base de quelques questions et surtout d'observations,
oui.
Va tirer des conclusions sur les diagnostics et ne se trompe à peu près jamais.
Il va être capable de faire un diagnostic comme ça à la volée devant les étudiants.
Exactement, avec la fameuse science de la déduction là, oui. qu'on va voir plus tard dans Sherlock Holmes. Il y a un type de terre sur votre soulier. Oui. Ça n'existe qu'à un seul endroit. Donc, j'imagine que vous venez de cet endroit-là. Si vous avez des problèmes respiratoires, c'est probablement à cause de l'usine qui blablabla. Bla, bla. Et ça attire les foules.
Oui.
Et ça va avoir vraiment un impact très, très grand sur Conan Doyle.
Conan Doyle va aussi découvrir le monde durant ses études. Il va voyager en sa qualité de chirurgien, en fait. Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là?
Bien, il y a une vie qui se peut pas, là. Donc, pendant qu'il est encore étudiant en médecine, pour faire un peu d'argent entre les sessions à l'université, il va s'engager comme chirurgien de bateau. D'abord, il va participer à une expédition dans le Grand Nord, dans l'Arctique, de pêche au phoque.
Oui.
Ça va vraiment le marquer. Il va garder des souvenirs très, très aigus de ça. Par la suite, il va participer à des expéditions en Afrique. Donc, il va déjà découvrir le territoire africain avant même de finir ses études de médecine.
Mm-hmm.
Il va garder ce goût de l'aventure toute sa vie.
Oui, c'est ça. Puis c'est probablement quelque chose qu'il va vouloir transmettre par la suite. Et ce qui se produit, c'est que la médecine le déçoit, en fait. Il n'est pas si intéressé que ça à cet exercice-là. Donc, il va se tourner vers l'écriture.
Exactement. Donc, il a toujours écrit, en fait. Oui. Donc, depuis la petite école, il a toujours écrit beaucoup d'œuvres de fiction, des petites histoires. On dit qu'il vendait même des petites histoires à ses amis quand il était au primaire, au secondaire, parce que quand il s'ennuyait. Il a continué à publier donc quelques petites histoires quand il était à Édimbourg. Et quand il commence sa pratique de médecine, bien, les choses ne se passent pas exactement comme il l'aurait voulu. Il n'a pas autant de patients qu'il aurait voulu. Il n'a pas autant d'argent, évidemment, qui entre. Il commence à écrire et à faire publier des petites histoires. Puis, éventuellement, une de ces histoires-là, bien, ça va être Sherlock Holmes. Donc, 1886, il va vendre une étude en rouge. C'est la première histoire.
Mm-hmm.
Ça va paraître dans le Beaton's Christmas Annual, donc une publication annuelle.
Et d'abord, c'est une nouvelle, là. On ne parle pas de roman ou quoi. Donc, c'est un feuilleton qui est dans un...
Bien, c'est comme un petit roman, là, si on veut, donc, qui existe en soi, donc
oui.
qui n'a pas nécessairement de suite ou quoi que ce soit. Un petit roman qui est publié dans une revue annuelle, c'était très courant à l'époque comme format. Et sans s'attendre au succès que ça va avoir, mais ça va être phénoménal. Là.
Et comment on peut décrire ce personnage-là de Sherlock Holmes?
Sherlock Holmes, évidemment, c'est notre détective privé, le premier détective privé amateur, si on veut.
Mm-hmm. Parce qu'il n'est pas policier, en fait,
Il n'est pas policier. Ouais. Ça va être très important. Puis ça explique aussi le succès de Sherlock Holmes, qui ne fasse pas partie vraiment de la police. Donc, détective privé amateur, très grand, très mince. Il y a quelque chose de très classique un peu dans Sherlock Holmes. On le décrit avec ses habits. On peut imaginer un peu le costume de tweed, déjà la petite casquette.
L'espèce d'allure, la prestance.
Oui, beaucoup de prestance. Un gentleman, bon, finalement, qui a une rationalité à toute épreuve, un sens de la logique, de la déduction, donc, qui est vraiment tiré de Bell, que Conan Doyle avait connu à Édimbourg. Il ne se cache jamais, d'ailleurs, que c'est vraiment son inspiration. Et l'idée de Sherlock Holmes, justement, en plus qu'il existe à l'extérieur de la police, c'est de se moquer un petit peu de la police. Arthur Conan Doyle était très, très fan de romans policiers, d'histoires de détectives. C'était un genre encore assez nouveau au 19e siècle. Edgar Allan Poe a probablement écrit le premier roman du genre. Il y a eu aussi Émile Gaboriau en France. Donc, Conan Doyle aimait beaucoup ces histoires-là. Et il y en a eu beaucoup d'autres de qualité moindre là, qui ont suivi. Ce qui le frustrait beaucoup, puis on l'a entendu tout à l'heure, c'est que la déduction, la façon de résoudre un crime n'était jamais expliquée.
C'est
il
n'y
avait jamais vraiment de...
C'est comme si on sortait un lapin d'un chapeau à la fin, puis voici la solution, et maintenant les menottes sont passées au criminel.
Exactement. Donc, il trouvait généralement les détectives, en fait, un peu stupides dans ces histoires-là. Puis il se dit, non, mais il y a une façon de résoudre des crimes, il y a une façon d'expliquer ça. Lui, il avait un esprit très, très scientifique, connaissait la médecine, bien sûr. Donc, s'est dit, ben je vais remplir un peu le trou qui existe. Oui. Et se faire plaisir à lui-même et faire plaisir aussi au public en créant ce personnage qui allait tout expliquer, exactement chaque étape de son raisonnement pour arriver à la solution d'un crime.
De manière très rationnelle et évidemment, il va s'inspirer des techniques scientifiques de la police qui faisaient leur apparition à l'époque.
C'était vraiment le début là, dans ce qu'on peut appeler la médecine légale. Mm-hmm. On se rappelle que la police n'a pas toujours existé. Hein? Donc, les polices municipales, celles de Londres, datent vraiment du début du 19e siècle, les années 1830-1840. Hein? Donc, Scotland Yard, qu'on connaît bien, donc, qui était sur la rue Old Scotland Yard. La technique qui était la plus populaire avant le 19e siècle, c'était simplement la prise de témoignages. Mm. Donc, on essayait de trouver des témoignages de personnes qui avaient assisté à un crime ou on essayait de récolter les aveux.
Un aveu,
criminels.
Oui, c'est ça.
Donc, c'était pas mal la base sur laquelle on pouvait résoudre ou non un crime. À partir du 19e siècle, on se dit, bien, il y a peut-être autre chose qu'on peut aller chercher. La science est en pleine expansion là, à l'époque, donc que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine de la médecine légale aussi.
Donc, on s'intéresse aux empreintes digitales, on s'intéresse à toutes sortes de paramètres qui permettent de décrire un criminel. On va créer des fiches systématiques, ce genre de choses-là.
Exactement. Ouais. Même le profilage criminel commence à l'époque. Donc, il y a beaucoup de crimes qui vont être résolus, des types de crimes qui vont être résolus pour la première fois grâce à ces avancées-là. Si vous avez déjà vu un film policier, là, vous savez de quoi on parle. Donc, la balistique aussi, hein, donc l'analyse des balles, la poudre de canon qui peut être laissée sur un crime, les empreintes de pas, évidemment, les empreintes digitales, ça commence à l'époque. Les analyses de fibres, les analyses sanguines aussi. Donc, on est au début, là. C'est pas super performant encore.
Oui.
Mais ça laisse présager ce qui va venir au 20e siècle.
Et tout ça survient, les premiers récits de Sherlock Holmes, dans une atmosphère de panique morale un peu, qui est alimentée par l'affaire de Jack l'Éventreur. Ici, on a un extrait de l'historien Roland Marks qui parle de ce fait divers très mystérieux à l'émission Au fil du temps du 19 novembre 1992.
Oui, alors le fait divers, il n'est pas aussi frappant aujourd'hui qu'il l'a été à l'époque. Six prostituées, on en a prêté huit. Et parfois, on a parlé de 14 prostituées, mais on ne prête qu'aux riches. Six prostituées tuées d'une façon atroce, dépecées de façon atroce dans l'été, le début de l'automne 1888 à Londres. Donc, un fait qui effraye et puis alors, peu à peu, un sentiment d'insécurité qui se répand. Et le fait divers, d'autant plus frappant qu'on ne découvre pas le coupable, alors que la police déploie beaucoup d'efforts, chefs de la police obligés de démissionner, la reine Victoria écrivant à son premier ministre pour lui demander de faire rapidement la lumière sur l'événement. Voilà le fait. Et ce qui ajoute alors au mystère du fait divers, c'est que les crimes s'arrêtent d'un seul coup, qu'on n'entend plus parler de Jack, et qu'à partir du début de 1889, parce qu'au début, bon, quelques crimes lui sont encore attribués, eh bien, le fait divers s'interrompt, et la série des crimes s'interrompt, et cela aussi a fait partie de l'histoire de Jack l'Éventreur.
Donc, on a, comme le disait Roland Marks, un fait divers comme ça qui attise la curiosité, qui fait beaucoup parler les gens. Ça ajoute à cette atmosphère-là, et l'idée d'une police dépassée par les événements. Et à côté de ça, Conan Doyle, avec son personnage de détective qui, lui, arrive à résoudre les crimes. Est-ce que ça participe à la popularité?
Absolument. Il faut vraiment replacer la popularité de Sherlock Holmes dans le contexte médiatique de la fin du 19e siècle. Des crimes terribles, des meurtres, il y en a toujours eu. Mais les gens n'ont pas toujours lu sur le sujet tant que ça. Dans les années 1880 et 1890, on a des grands journaux, disons populaires, on pourrait même dire populistes, qui sont en circulation. Il y a de plus en plus de gens qui vont lire
des journaux jaunes,
ces nouvelles-là.
Qu'on pourrait
dire. Exactement. Ouais. Donc, on connaît le cas de Hearst, de Pulitzer aux États-Unis, mais il y en a d'autres aussi en Angleterre. Donc, tout ce qui est sombre, glauque, un peu sanglant, qui peut faire peur, bien, c'est publié dans les grandes pages. Donc, les gens adore les potins autant qu'aujourd'hui. Là, pensons à la popularité du true crime aujourd'hui.
En balado
Exactement. Donc, on va suivre les histoires policières dans le journal de façon frénétique. Puis, tout ce qu'on voit, c'est la police qui échoue. Donc, la police va un petit peu être ridiculisée là, aux yeux du public britannique quand un Sherlock Holmes arrive avec sa froideur, sa rationalité, son esprit scientifique qui est capable d'aider la police à résoudre des crimes. C'est ça, hein, Sherlock Holmes.
Oui.
Il se fait toujours appeler au début d'une histoire. Hein, on ne sait pas comment résoudre le crime, qu'est-ce qui s'est passé là.
Mais effectivement,
il y a quelque chose de très rassurant pour le public. Mais il y a quelque chose aussi, on aime ça, là, le rire de la police. Là.
Oui.
Ça n'a pas changé. Donc, ça fait partie exactement là, de la popularité de Sherlock Holmes.
Conan Doyle va être très prolifique. Au total, on dénombre 4 romans, 56 nouvelles, le tout publié entre 1887 et 1927. Et pourtant, avec le temps, il va prendre ombrage de la popularité de son héros. Pourquoi?
Assez rapidement, en fait. Il va un peu se lasser de Sherlock Holmes. Donc, c'est pas qu'il n'aime plus le personnage de Sherlock Holmes, il n'aime pas le phénomène de Sherlock Holmes parce que, disons que les éditeurs lui pressent un peu le citron.
Ouais.
On se dit, bon, ben là, on a quelques histoires, ça fait circuler les magazines comme jamais. On en veut plus, on en veut plus, on en veut plus. Donc, il va signer à coup de 12 histoires au début. Le fait de devoir écrire 12 histoires de Sherlock Holmes, évidemment, ça l'empêche d'écrire d'autres choses.
Oui.
Il s'intéressait à plein de trucs. Il a écrit des traités médicaux, il a écrit des livres d'histoire, il a écrit de la poésie. Donc, le fait de devoir écrire Sherlock Holmes, donc que ce soit une pression, bon, évidemment, ça l'empêchait de se consacrer à des trucs qu'il considérait souvent comme plus intéressants et plus importants.
Exactement. Et il va même aller jusqu'à faire mourir son héros.
Il va tuer.
C'est un geste assez dramatique. Et ça, Daniel Turcotte en a parlé sur nos ondes en 1987. C'était à l'occasion du 100e anniversaire de la création du personnage de Sherlock Holmes. Et Daniel Turcotte parle de la commotion provoquée par cette mort prématurée.
Ça va faire une espèce de... On n'aura jamais vu ça en Angleterre avant la mort de la reine Victoria. Ça va être un deuil national. Les femmes vont se promener dans les rues habillées en noir. C'est vrai, ça. Les femmes se promènent dans les rues habillées en noir. Les hommes avec des brassards noirs au bras ou avec, bon, du noir au chapeau. Même on dit que la reine Victoria n'était pas du tout contente. Et quand la reine Victoria n'était pas contente de quelque chose, ça se savait.
Ça brassait dans l'Empire.
Oui, et même la mère de Conan Doyle va même lui écrire, ben tu devrais, et tout ça, j'aime pas ça, je suis pas contente. Bref, ça va faire toute une histoire.
Combien de temps ça lui a pris avant de reprendre le personnage? Parce qu'il l'a repris.
Il l'a repris, ça va lui prendre 10 ans. 10 ans après, il va quand même, bon, il va être un peu plus... Il va s'être consacré à d'autres œuvres, va avoir écrit d'autres ouvrages, va avoir fait d'autres choses, va avoir été même... Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, va même avoir été médecin en Afrique du Sud pendant la guerre des Boers. Il va écrire un compte-rendu de ça, il va s'impliquer dans toutes sortes de trucs. Et à un moment donné, il va revenir parce qu'il se dit, bon, c'est bien, je l'ai créé, pourquoi pas... C'est quand même un bon moyen. Bon, c'est quand même un bon moyen pour raconter une histoire. Alors, il va le reprendre et Sherlock Holmes va renaître parce que, bon, ça peut être quand même intéressant.
Donc, on le comprend, il y a eu une espèce de choc à la mort de Sherlock Holmes, une tristesse qui a été partagée chez les Anglais. Daniel Turcotte parle aussi des autres occupations de Conan Doyle. On pourrait aussi mentionner sa fascination pour le spiritisme. Ça va prendre une place assez importante dans sa vie, hein. Mais... de quoi on parle exactement quand on parle de spiritisme?
Donc, le spiritisme, c'est un mouvement à la fois religieux-ish, spirituel, philosophique, un peu, selon lequel, pour faire une histoire courte, là, donc, les esprits des morts nous entourent et c'est possible d'entrer en communication avec eux. Donc, le spiritisme, ça va vraiment prendre racine dans l'État de New York, donc dans les régions très industrialisées de l'État de New York dans les années 1840. Donc, ça va se développer rapidement là, au milieu du 19e siècle aux États-Unis. Ça va rapidement traverser l'océan, donc s'exporter à l'Europe. Il va y avoir un premier sommet, si on veut, de spiritisme après la guerre civile aux États-Unis, notamment à cause de toutes ces morts, hein, donc l'expérience de deuil.
Donc, on cherche à communiquer avec ceux qui sont disparus.
On se rappelle, ceux qui vont au front, évidemment, ce sont généralement les jeunes hommes. Donc, il y a beaucoup de familles qui sont endeuillées, qui ont perdu un fils, deux fils, trois fils, on a perdu son frère, son oncle et compagnie. Donc, on cherche à entrer en communication avec ces morts-là. Ça va revenir aussi, donc le spiritisme un petit peu plus tard, donc à la fin du 19e siècle, on a d'autres guerres et surtout après la Première Guerre mondiale. Donc Conan Doyle commence à s'intéresser au spiritisme vraisemblablement dans les années 1880, donc à peu près au moment où il commence à écrire en fait Sherlock Holmes, mais va vraiment, vraiment, disons, si on veut se consacrer au spiritisme à partir de la Première Guerre mondiale. Conan Doyle, c'est un homme de son époque, là. C'est un gentleman victorien. Il voyait la guerre comme quelque chose de grandiose, quelque chose de glorieux.
Une expérience nécessaire dans la vie d'un homme.
Et lui a vécu donc la guerre des Bourgs, agi comme chirurgien sur place, a vu des trucs terribles, mais n'a pas été traumatisé par son expérience. C'est vraiment la Première Guerre mondiale. Lui était rendu quand même assez âgé à ce moment-là, mais il y a des enfants qui sont allés à la guerre, donc des neveux qui sont allés et qui n'en sont jamais revenus. On se rappelle aussi que la Première Guerre mondiale est suivie de l'épidémie de la grippe espagnole. Donc, cette expérience de deuil va raviver le spiritisme donc, chez beaucoup de ses contemporains, évidemment chez lui. Aussi.
Donc, il va être un grand défenseur de ces croyances-là, mais en même temps, à son époque, il va avoir un adversaire qui est Harry Houdini, qui est un pourfendeur de tout ce qui était croyances occultes, si on veut. Donc, il va avoir un choc entre les deux hommes, là.
La chose, on peut surprendre. On voit Harry Houdini, donc ce magicien incroyable, illusionniste, qu'on connaît très bien, mais qui était persuadé que la magie n'existait pas.
Oui.
Et que tout ce qui relevait du surnaturel, ce n'était qu'illusion ou supercherie, ce qui l'enrageait, d'ailleurs, hein, de voir les gens prétendre avoir accès à des pouvoirs surnaturels et tout ça. Et de l'autre côté, on a Arthur Conan Doyle, créateur de Sherlock Holmes, l'homme le plus rationnel au monde, qui pourtant est persuadé que le surnaturel est vrai. Il a écrit un article, d'ailleurs, en 1920 pour écrire que les fées existaient. Hein. Il voyait les fées un petit peu comme l'extension là, des esprits.
De l'âme ou des esprits, d'accord.
Exactement. Arthur Conan Doyle jugeait que Harry Houdini était capable de faire ces trucs parce qu'il possédait des pouvoirs surnaturels, même s'il l'ignorait. Et les deux hommes vont entrer en conflit. Donc, ils sont d'abord très bons amis, partent en vacances ensemble.
Ah oui.
Ils vont finalement se brouiller quand la femme de Conan Doyle va écrire une lettre qu'elle va prétendre avoir été révélée par la mère de Houdini. Houdini va bien sûr voir que c'est faux parce que la lettre est rédigée en anglais. Sa mère était juive hongroise.
Oui.
Elle ne parlait pas un mot d'anglais.
Selon une recension de l'Internet Movie Database, Catherine, les adaptations de Sherlock Holmes à l'écran sont au nombre de 275, ce qui en ferait le héros le plus présent dans l'histoire du cinéma. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'héritage d'Arthur Conan Doyle, Catherine Tourangeau? Il a un peu inventé un genre littéraire, dans le fond.
Vraiment, c'est pas lui qui a inventé le premier roman policier ou le premier roman de détective, mais il a certainement lancé, si on veut, le roman de détective moderne.
Oui.
Donc, il y a tellement de romans qui ressemblent à Conan Doyle.
Il y en a créé des bases ou des références qui vont servir à d'autres auteurs par la suite.
Absolument, absolument. Et évidemment, ça s'est transmis aussi à d'autres forme d'art de son vivant. Il y a eu des adaptations de Sherlock Holmes sur la scène.
Mm-hmm.
C'est là que Sherlock Holmes, d'ailleurs, a reçu la pipe.
Ah oui,
qu'on
d'accord.
lui connaît. Il y a eu évidemment des films, des séries télé. Là.
Pourquoi ce personnage-là continue à plaire plus de 130 ans après sa création?
Mais il y a beaucoup de choses là-dedans. J'ai l'impression d'abord que c'est un personnage remarquablement moderne au moment de sa création. Et toute sa modernité persiste encore aujourd'hui. Donc, c'est un personnage qui peut être modelé, qui peut être changé, qui peut être adapté à différentes époques. On se rappelle la série avec Benedict Cumberbatch de la BBC, où Sherlock Holmes utilisait un téléphone intelligent.
Oui.
Donc, on peut adapter Sherlock Holmes à un petit peu tout.
C'est ce qui en fait son succès. Catherine Tourangeau, historienne chargée de cours au Collège Hensick, merci beaucoup.
Merci à vous.
Je m'appelle André Martineau, en remplacement de Maxime Coutier, et je vous dis à très bientôt.
Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.